Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode qui aujourd'hui est un peu, ça s'appelle plutôt Entreprendre dans le design et l'architecture. Je suis en effet pour la première fois dans ce podcast avec un architecte et un designer. Il s'appelle Franklin Asie. C'est le fondateur de Franklin Asie Architecture et Franklin Asie Design. Salut Franklin.
Bonjour à tous et merci beaucoup de m'inviter à ce podcast.
Bah avec plaisir. La première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Voilà, bah, je vais me présenter. Alors assez simplement, je suis architecte de formation. Avec un parcours, ça fait plus de 20 ans que j'opère dans ce milieu-là. Ouais. On a une discipline qui est très large, puisqu'en fait, on est architecte, on est designer. Ça nous arrive d'être directeur artistique.
D'accord.
Et puis, on est aussi urbaniste. Et voilà, le spectre est assez vaste dans le métier que je fais en ce moment.
Cool. Bah, je te demanderais de définir tous ces termes, parce que comme c'est la première fois que j'accueille un architecte, designer, urbaniste, etc., ce serait bien de comprendre la différence. Mais ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ?
Alors, pour te parler un peu de tous les métiers dont je viens de te parler, ça n'est qu'une question d'échelle, en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand on aborde le design, c'est de la petite échelle.
Ouais.
Quand on aborde de l'urbanisme, c'est de la très grande échelle. C'est
D'accord.
en fait un zoom sur l'objet sur lequel on est en train de travailler. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup élargir le spectre de ces échelles-là, parce que ça demande pas du tout la même gymnastique d'esprit.
Mmh.
Et j'ai toujours tendance à dire à mes équipes qu'à partir du moment où on s'ennuie dans la vie, c'est un problème. Donc j'aime bien toujours aller de l'avant et découvrir de nouvelles échelles, découvrir des nouvelles méthodes de fabrication et de modes de pensée, quoi.
Très bien.
Alors, mon parcours, il est pas très compliqué. J'ai fait mes études en partie à Paris, à l'école spéciale d'architecture.
T'es parisien au départ, hein.
Je suis parisien au départ, d'origine libanaise. Voilà, mon grand-père était libanais, mais
D'accord.
je l'ai jamais connu. Donc je n'ai que du sang libanais, mais j'ai pas forcément l'éducation libanaise, ni la culture libanaise, ni la langue que je ne connais pas. Et ça, d'ailleurs, ça me rend triste par moment. Je me dis qu'il faut que un jour je m'y mette.
C'est clair.
Et donc j'ai fait mes études à Paris. J'ai toujours plus ou moins voulu être architecte dès 15 ou 16 ans. Voilà, c'est quelque chose que j'ai abordé de manière très manuelle. Quand j'étais petit, je faisais des caplas, je faisais du modélisme, je faisais des maquettes. Et j'ai toujours été très manuel. C'est ce qui me caractérisait le plus pendant mes périodes d'adolescence. J'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé les matériaux, le bois. Donc, je me suis dit, bah, c'est une bonne idée de faire architecture. Je n'étais pas excellent en classe. Voilà, ça peut arriver. Et c'est vrai qu'à l'époque, le métier n'était pas un métier très scientifique. Il était presque littéraire. Mmh. Et donc, ça m'allait bien. Voilà, j'étais très bon en philo. J'aimais bien les concepts. J'aimais bien réfléchir, mais j'étais pas très bon en sciences. Voilà. Depuis, je le suis devenu sur le tas. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, on n'apprend pas tout à l'école, mais on finit par apprendre aussi dans notre métier, dans notre profession,
non
par nécessité,
ouais.
Exactement. Et c'est vrai que notre métier est devenu depuis très scientifique. Voilà, parce que c'est de plus en plus compliqué de construire. Il y a de plus en plus de normes, il y a de plus en plus de métiers à connaître liés à la science, sur la structure, sur l'acoustique, sur les végétaux, et en fait, ça demande d'avoir quand même un esprit un peu scientifique pour réussir à résoudre cette complexité.
Très bien.
Donc voilà, et après mon école à Paris, donc à l'école spéciale, je suis parti à Glasgow. Et là, j'ai découvert une autre école qui s'appelle la Glasgow School of Art, et qui est une école qui m'a beaucoup appris parce que c'est un peu à l'image de l'école du Bauhaus, que peut-être beaucoup de gens connaissent, qui était quelque chose de très de multidisciplinaire. Mmh. Et j'ai traîné mes basques dans des ateliers de serrurerie, de bois, de poterie, de dessin industriel de voitures. Et en fait, j'ai beaucoup butiné dans cette école-là. Mmh. Mais ça m'a appris et ça m'a justement ouvert ce spectre et ce champ d'interrogation et d'analyse dont je me sers toujours. Voilà. Et après, dans mon parcours, il y a eu aussi un autre moment important, c'est que j'ai fini mes études et j'ai fait mon service militaire. Voilà. C'est,
Je suis une dernière de cela,
personne qui l'a fait. mais je l'ai fait, et je dois dire que ça m'a beaucoup intéressé parce que je l'ai fait en pratiquant mon métier. J'étais architecte pour le ministère des Finances. Et ils m'ont donné l'occasion de faire mes premiers chantiers. Voilà.
Trop bien.
Parce que quand j'étais très jeune, quand j'avais 20 ans, et on dit souvent que les premiers chantiers pour un architecte, on commence à les faire vers 50 ans, quoi.
Bah ouais.
C'est un jeune architecte, c'est un architecte entre 50 et 70 ans, dans le jargon de tout le monde. Et donc, j'ai pris un petit peu d'avance grâce à ce service militaire pour faire mes premières grandes réalisations et du coup apprendre ce que c'était que le chantier.
Et là, c'était des gros bâtiments déjà ?
C'était des bâtiments d'une certaine taille, oui. Ouais. Puisqu'en fait, j'étais rattaché aux ambassades étrangères. Donc, j'ai vécu un an à New Delhi et j'ai vécu un an à Ankara. Et je travaillais pour l'ambassade et je réalisais des bâtiments pour eux.
Trop bien.
Voilà. Donc, j'ai appris sur le tas, mais assez vite parce que j'avais vraiment la nécessité de finir les bâtiments qu'ils m'avaient donné à faire. Donc,
Et le... Si t'avais pas fait ça, t'aurais fait quoi ? Parce que, enfin, l'architecture, c'est marrant qu'on tombe dedans. Enfin, ça avait l'air d'être très clair dès le départ pour toi.
Alors, oui, c'était très clair. Après, j'ai une famille de médecins, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, mais donc j'étais très très imprégné par une famille vraiment liée à la médecine. Mon grand-père maternel était chirurgien ophtalmo. Il a fait les premières grèves de la cornée, donc il était vraiment dans de la recherche médicale, etc. Ouais. Mais j'étais pas assez bon en cours, je l'ai dit tout à l'heure, et en fait, à l'époque, médecine, fallait vraiment avoir des bonnes notes en maths et en physique et en sciences nat. Ça s'appelait sciences naturelles à l'époque, je suis un peu vieux. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je fais un parallèle très fort entre la médecine et l'architecture, et j'en parle souvent, parce qu'on a une activité à l'agence qui est intimement liée à la réhabilitation des bâtiments. Et en fait, une réhabilitation de bâtiments... C'est un peu comme l'analyse d'un corps humain. C'est comme un médecin pourrait décider de faire un scanner sur un bâtiment et puis le comprendre. Et je me rends compte que les parallèles sont très, très fréquents et que l'architecture est une forme de médecine pour les bâtiments aussi, surtout quand on aborde la réhabilitation. Donc, j'aurais pu être médecin, mais et je crois que j'aurais aimé l'être parce que je pense que ça fait partie des métiers qui... où on a l'impression quand même d'avoir une réelle valeur ajoutée liée à la vie, liée au bonheur des gens, liée à... voilà, et je pense que c'est un métier dans lequel on peut s'assumer pleinement parce qu'il est très généreux, quoi, en fait.
Tu t'es tout de suite mis à ton compte ou tu as travaillé pour d'autres personnes avant de créer tes entités ?
J'ai beaucoup travaillé pour d'autres gens avant de me mettre à mon compte.
Ouais.
Et en fait, pendant mes études, j'avais besoin un petit peu de les payer. Donc, j'ai commencé assez rapidement à bosser pour des agences, à bosser pour mes profs. Moi, à l'époque où j'étais en pleine période d'études, c'était le démarrage des premières images de synthèse, de la représentation virtuelle de l'architecture. Et moi, j'étais assez jeune et j'aimais bien les ordinateurs. Et du coup, j'étais assez à l'aise à faire des perspectives, notamment, et à représenter les projets des autres. Et je me suis mis à travailler pour plein d'archis et à faire des perces. Et après, je suis rentré dans une agence d'une assez grande échelle qui s'appelle Architecture Studio, qui était associée avec Jean Nouvel, qui ont notamment fait l'Institut Monde Arabe, le Parlement Européen de Strasbourg, donc des bâtiments de très grosse échelle. Ils étaient pas loin de 100 personnes. Et là, je suis resté longtemps chez eux. Voilà, c'était un peu mon troisième cycle universitaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris la profession. Voilà, on dit souvent qu'il y a une différence entre le métier et la profession. À l'école, ils nous apprennent le métier. Mais dès qu'on rentre dans une structure de société, là, on voit vraiment ce qu'il faut savoir faire tous les jours.
T'es resté combien de temps là-bas ?
Et je suis resté 8 ans.
Ouais.
Alors, j'ai eu un parcours assez parabolique chez eux parce que j'ai démarré, encore une fois, perspectiviste. J'ai fait mon stage chez eux aussi. Après, j'étais dessinateur. Après, j'étais chef de projet. Après, j'étais directeur de projet. Et après, j'étais associé. Voilà. Ils m'ont proposé de monter une filiale que j'ai dirigée pendant 3 ans. Et finalement, au bout de ces 3 ans, je me suis rendu compte que la boucle était un peu bouclée. C'est-à-dire que j'avais appris à gérer une société. J'avais appris à avoir accès à la commande, c'est-à-dire à trouver mes propres clients. Et puis, j'avais surtout appris à diriger une cellule créative. Et c'était ça qui était quasiment le plus important. Mmh. Et au bout de cette période de 8 ou 9 ans chez eux, je me suis dit, bon, bah, là, je crois que je suis à peu près mûr pour démarrer une vraie histoire professionnelle. Et, alors, j'ai recommencé par la petite porte parce que quand j'ai, en fin de parcours chez eux, bah, j'étais directeur de projet de Tours en Chine. Donc, j'avais des énormes équipes à gérer. Mmh. Et puis c'est vrai, quand on redémarre à zéro, bah là je me suis retrouvé dans ma chambre de bonne avec un stagiaire où j'étais obligé de ranger ma chambre avant qu'il arrive à 9h30 le matin. Mmh. Et puis j'ai recommencé en faisant des tout petits projets.
Mmh. Voilà. T'avais quel âge à l'époque ?
Et je devais avoir 29 ans ou 30 ans.
Voilà. Donc t'avais déjà beaucoup d'expérience très tôt en fait.
J'avais déjà pas mal d'expérience,
ouais. Ouais. Et cette ambition, parce que j'ai l'impression que... Alors moi, il y a deux choses qui me marquent, ça fait que 10 minutes qu'on est ensemble, mais un, t'es hyper à l'aise à l'oral, alors qu'habituellement, les architectes, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans le visuel et ils ne s'expriment pas trop dans la parole. Non, je dis une bêtise.
Non, t'as raison.
Ouais.
T'as raison.
Et deuxième chose, c'est l'ambition, quoi. J'ai l'impression que t'avais une soif de faire des gros projets, etc. Très tôt, ça vient de quoi, d'après toi, ce truc-là ?
Bah, écoute, je... Bon, pour la première question sur à l'aise à l'oral, je ne le suis pas tout le temps, hein, pour ne rien cacher. Mais là, le cadre fait aussi le podcast, la proximité, ouais. c'est assez intime et c'est vraiment le cadre s'y prête, hein, pour moi. Ça m'arrive d'être très très mal à l'aise quand je passe un oral, un grand oral où les enjeux sont énormes derrière, ouais. Bah, je bégaye comme tout le monde et, ouais. et j'ai des blancs et je me dis qu'est-ce que je dois dire après. Mais là le cadre est très intime et c'est ça que j'aime bien. Et ta deuxième question, je l'ai oubliée déjà.
C'était l'ambition.
Alors oui, bah, je peux pas. Évidemment, j'ai une forme d'ambition. En fait, j'ai une forme d'ambition parce que c'est pas une ambition financière, c'est pas une ambition de réussite sociale. Mais c'est par contre j'ai pris goût très très vite au travail en commun avec des équipes créatives. Et en fait, elle vient de là, mon ambition. Elle vient de l'envie de fabriquer un atelier d'architecture au sens un peu ancien du terme, hein, comme l'avaient Niemeyer, Alvar Aalto, Le Corbusier. C'était des ateliers. Voilà. Donc, c'était une école de pensée. C'était des gens qui les suivaient depuis longtemps.
Explique-nous ça, parce que tu vois, là, tu me perds tout de suite.
Je t'ai perdu, là.
Non, les ateliers. Non, parce que les ateliers, ça m'intéresse énormément, là, quand tu me parles de Niemeyer,
etc. En fait, quand je parle d'atelier, c'est que autrefois... les écoles de pensée en architecture étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus franches. On vivait des courants qui duraient 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'écoles de pensée globale, mais c'est plein de micro-courants d'architecture, comme il peut y avoir en mode, en photographie, etc. Mais à l'époque de ces ateliers un peu emblématiques, dont je parlais tout à l'heure, les gens mettaient très longtemps à monter leurs équipes. Voilà, il y avait un temps long de fabrication d'équipes avec des vraies valeurs communes. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui ici. Je l'expliquais tout à l'heure, mais j'ai toujours eu une société qui marche avec des salariés, pas des indépendants,
pas des...
Voilà, je considère qu'on n'est pas comme une agence de pub. Moi, j'ai besoin d'avoir une vraie pérennité de ressources humaines à l'agence qui dure longtemps, qui met du temps à me comprendre aussi, parce que on met du temps à s'adapter à ma manière de faire l'architecture, etc. Donc, j'aime pas quand il y a du turnover dans l'agence. Voilà. Pour moi, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que voilà, les gens viennent picorer, ils repartent, et j'ai vraiment besoin d'avoir ce temps long avec les salariés que j'ai à l'agence. Donc, j'aime l'idée d'un atelier.
Ouais. Et alors, quelle vision tu défends en créant cet atelier ?
Ben,
Mets bien le micro sur le...
La vision, elle est multiple. Hein. Clairement, je vais essayer d'être assez court en t'expliquant mes différentes visions l'agence. Mais elle a des valeurs, je le redis, c'est très important.
Ouais.
Voilà. Elle a des valeurs aussi parce que je suis dans un milieu et un métier dans lequel c'est plutôt l'économie qui prime. Le milieu de l'immobilier est un milieu très dur. Le milieu de la construction est un milieu extrêmement dur aussi. Où il faut faire face à des grandes économies. Voilà. Donc un atelier d'architecture, il est tout petit par rapport à des majors de la construction comme Bouygues, comme FH, il est aussi tout petit par rapport à des gros maîtres d'ouvrage institutionnels qui construisent des millions de mètres carrés. Et donc constamment, faut faire de la résistance en fait. C'est-à-dire que pour réussir à faire l'architecture qu'on souhaite, eh bien, il faut faire de la résistance, mais constructive. Voilà, vaut mieux être au cœur du réacteur, c'est-à-dire travailler avec ces personnes-là, mais changer petit à petit leurs valeurs, amener plus loin, notamment sur les aspects environnementaux. C'est quelque chose qui, moi, est très, très important depuis des années et qu'on travaille comme une sorte de laboratoire de recherche. Mmh. Et c'est un peu les valeurs que j'essaie d'inculquer à l'agence, c'est-à-dire que le temps est long en architecture. Et c'est très important de se dire que le temps est long parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont envie de rivaliser avec des temps courts, qui sont jaloux un peu du milieu de la mode, du milieu de la photographie, où il y a un peu cette notion de l'instantané, un projet instantané. Mmh. Et moi, je pense que l'architecture, il y a un temps très long, et dans la fabrication, et dans l'appréhension de l'architecture. On met longtemps à aimer une architecture. Elle peut être mal aimée pendant des années. Mmh. Et la Tour Eiffel a failli être démolie 4 fois, et pourtant, aujourd'hui, c'est le symbole et l'icône de la France. Mais et c'est ça que j'essaie d'inculquer aux gens qui m'entourent et qui m'encadrent, c'est qu'il faut être patient en architecture, beaucoup plus qu'en design. Encore une fois, je te parlais des rapports d'échelle tout à l'heure. Le design, on peut avoir cette vision un peu instantanée, mais l'architecture et l'urbanisme, sûrement pas. Voilà. Et donc ces valeurs-là, elles sont très fortes. J'essaie aussi toujours de dire à mes salariés, à mes associés, que finalement il y a beaucoup de gens qui attendent de l'architecture un effet waouh. C'est vraiment un terme qui revient toujours dans les discussions en architecture. Moi, je m'oppose mais radicalement à l'idée de l'effet waouh, parce que je trouve qu'il abîme la notion du temps et de l'architecture. C'est-à-dire qu'on essaye d'être juste à un moment donné mais on ne le sera peut-être plus dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà. Et donc je m'oppose un peu farouchement à l'effet waouh. Je m'oppose aussi à l'idée que l'architecture soit du marketing. Voilà, on n'a pas quelque chose à vendre. On a quelque chose à donner, ce qui est très, très différent d'un point de vue philosophique. C'est pas la même chose, quoi. Voilà.
Et il y a cette dimension d'intemporalité ou pas dans l'architecture? Quand on fait un bâtiment, on veut que dans 100 ans, il soit encore relevant, enfin qu'il soit, ça, comment on dit en français, mais...
C'est le graal des architectes, c'est l'intemporalité.
L'intemporalité.
Mais on peut l'apprendre de deux manières différentes. Il y a l'intemporalité qui est liée à l'ego de l'architecte, surdimensionné, qui se dit qu'il a envie de traverser le temps avec ses bâtiments. Moi, je ne la vois pas vraiment comme ça, encore une fois, parce que je m'imagine très bien que dans un demi-siècle, un siècle, d'autres architectes vont venir réhabiliter mes propres bâtiments et j'en serais très content, je serais ravi. Et puis, il y a l'intemporalité de vouloir fabriquer quelque chose qui va réellement durer dans le temps. Voilà. Et j'ai l'occasion, moi, de m'en apercevoir tous les jours dans mon métier, parce qu'on réalise beaucoup de réhabilitations, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille sur des bâtiments qui ont été réalisés il y a un siècle, il y a deux siècles, et je peux me rendre compte tous les jours qu'il y a des générations de bons bâtiments et des générations de mauvais bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont plus facilement réhabilitables parce qu'ils sont pérennes, qu'ils ont été faits avec des bons matériaux, qu'ils ont été construits avec des bons procédés constructifs, et du coup qui ont une forme de flexibilité qui leur permet de passer d'un temps à un autre, d'un siècle à un autre. Et puis, tu as d'autres bâtiments qui sont mauvais, mais qui sont mauvais dans leur ADN, quoi, dans leur racine. Et ceux-là, ils sont plus durs à réhabiliter parce qu'ils n'ont pas été pensés pour passer le temps.
Et c'est lié à quoi? C'est lié à l'époque, à l'architecte en lui-même?
Ça peut être lié à beaucoup de choses. Il y a des époques où on utilisait des mauvais matériaux de construction, par exemple. Après-guerre, il y a eu besoin de tellement de fabrication de mètres carrés pour les logements, etc., qu'on a fini par industrialiser l'architecture et finalement oublier la qualité des matériaux et la qualité des systèmes constructifs. Mais quand on prend un bâtiment de la fin 19e, c'est des bâtiments qui peuvent être réhabilités 20 fois, ils sont toujours aussi beaux parce qu'ils sont en pierre de taille, ils sont en métal de très bonne qualité. Le bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est mon agence, c'est un bâtiment de 1880. Il durera très probablement plus de 500, plus de 600 ans, et c'est une évidence. C'est pas parce qu'il est uniquement beau, mais c'est parce qu'il est bien construit et avec des bons matériaux, et que du coup, il aura plusieurs vies, c'est sûr.
Trop bien. Revenons à ton aventure entrepreneuriale, parce que entre le moment où tu es dans ta chambre de bonne avec ton stagiaire et aujourd'hui, où vous êtes près d'une quarantaine de collaborateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on grandit? Comment on construit une aventure entrepreneuriale dans ce secteur-là?
Eh ben, c'est très progressif. Voilà. C'est vraiment très progressif. Je pouvais pas m'imaginer qu'un jour j'aurais un atelier de cette taille-là.
Tu l'avais pas rêvé à un moment donné? On commence toujours par le rêver.
Je l'avais rêvé parce que je sais aussi que je suis dans un métier dans lequel je peux pas faire mon métier tout seul. Voilà, c'est qu'il y a un moment, moi, j'arrive à la limite de mes compétences, même intellectuelles ou techniques, et que je me rends compte que la richesse aujourd'hui de mon atelier, c'est toutes ces compétences que j'ai réussi à réunir en 15 ans. Voilà. Et c'est tous ces gens qui sont complémentaires par rapport à ce que je suis et qui ont des domaines de compétences que moi, je n'ai pas. Et c'est un architecte assez connu qui s'appelle Renzo Piano qui a toujours dit qu'un bon projet, c'est un travail d'équipe. Quoi. C'est que comme ça qu'on peut imaginer un projet d'architecture, tellement il y a d'intervenants. Voilà. Après, moi, j'ai un peu le final cut comme au cinéma, c'est-à-dire que je suis garant un peu d'un cap qu'on doit avoir sur un projet en réunissant toutes ces compétences, mais c'est un travail d'équipe.
C'est quoi la patte Franklin Asie? Parce que j'imagine que j'ai l'impression que tu fais des projets qui sont extrêmement différents. En plus, tu travailles pour pas mal de marques aussi.
Oui.
Donc, tu dois t'adapter à l'ADN de cette marque-là, etc. Et ne pas trahir son univers. Qu'est-ce que tous tes projets ont en commun?
Alors, c'est vraiment une question intéressante parce que je me la pose tous les jours, en gros. Et parce qu'on me la pose souvent.
D'accord.
Et je continue de réfléchir à comment je dois à répondre à cette problématique parce que moi, je suis d'une génération d'architectes qui, quand on la compare avec celle des années 80, des grands projets de Mitterrand, c'était des architectes qui étaient un peu affiliés entre architectes et artistes. Donc, ils se devaient d'avoir une patte reconnaissable, vraiment plastique, physique. Un architecte comme Richard Meyer faisait que des bâtiments blancs. Quand on voyait un bâtiment blanc, on se disait, c'est forcément Richard Meyer. Un architecte comme Nouvel utilisait beaucoup le vert. On se disait, ça doit être Nouvel. Tadao Ando, il faisait que des bâtiments en béton avec des trous pour les banches, pour les moules de béton. Et donc, en fait, ils ont fait une forme de marketing liée à leur plastique de production. Et moi, j'ai l'impression que je m'en échappe complètement de ça. J'ai pas du tout envie que tous mes projets soient reconnaissables au sens plastique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que je pars du principe que tous les projets doivent être très contextuels. Alors, ils peuvent être contextuels de plein de manières différentes, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue géographique. Et qu'à partir de ce moment-là où il y a tellement de données d'entrée différentes, je peux pas dupliquer une plastique. Et il y a aucun intérêt à la dupliquer. Donc, je m'éloigne de la vision d'un architecte artiste. Et j'ai pas du tout l'impression d'en être un. Je suis plus un architecte technicien. Et c'est pas un gros mot, le fait de dire qu'on est technicien en architecture. Parce qu'on se rend compte que la plus grande créativité, elle finit par venir de la grande connaissance technique. C'est-à-dire, quand on a réussi à s'affranchir de toutes ces problématiques techniques très variées, très diverses, très complexes, c'est là où on a un champ de liberté qui commence à s'ouvrir. Et donc voilà, je suis plus architecte technique qu'architecte artiste et je l'assume.
Et pourquoi les gens viennent te chercher toi et pas quelqu'un d'autre?
Alors, je pense qu'ils viennent nous chercher très probablement aussi parce qu'on a une grande part d'analyse dans nos projets. Tu parlais tout à l'heure du travail qu'on fait avec beaucoup de marques. Quand je commence une collaboration avec une marque, je vais pas leur dire je vais vous faire un projet comme ci comme ça. J'écoute pendant des semaines et des semaines l'histoire de la marque, les valeurs de la marque, où est-ce que la marque aimerait bien aller dans les années qui suivent. Et à partir de ce moment-là, je commence à avoir un terrain propice à leur proposer quelque chose qui leur convienne. Et c'est là où je te dis que tous mes projets sont très contextuels, c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Et c'est bien par moment mon problème vis-à-vis de certains journalistes qui ne comprennent pas forcément le fil d'Ariane. Alors que moi, je suis convaincu d'en avoir un, mais il est plutôt dans la compréhension de la commande. Donc je pense que, pour répondre à ta question, pas mal de clients viennent nous voir parce qu'ils ont une problématique, ils ne savent pas forcément comment la résoudre. Et on arrive au fil du temps à leur fabriquer une solution architecturale.
Et dans quelle mesure, enfin, comment dire, quand les marques avec qui tu travailles, j'ai l'impression qu'ils ont déjà une ADN qui est très forte. Enfin, moi, je regardais rapidement tout à l'heure des Le Maire, des Blends, des enfin il y en a tellement. Enfin, tu peux nous en citer quelques-uns peut-être des projets sur qui tu as travaillé.
On travaille avec effectivement, on a travaillé avec Christophe Le Maire, on a travaillé avec avec Isabelle Marant, on a travaillé avec Jérôme Dreyfus qui fait des sacs de luxe, on a travaillé avec LVMH, on a travaillé avec
Franck Durand avec Holiday.
Franck Durand qui est un directeur artistique pour le Café Holiday. Là, on a travaillé récemment pour les Galeries Lafayette. Donc, j'aime bien travailler avec des marques. Effectivement, ces marques sont déjà fortes.
Ben oui.
Mais il y a un moment aussi, quand je te parlais de commandes, j'aime bien non pas choisir mes clients, parce que je ne les choisis pas tous, je n'ai pas toujours l'occasion de les choisir, mais je préfère quand même très souvent travailler avec des clients qui ont eux-mêmes une très grande force et des très grandes convictions. Parce que je me rends compte qu'on sera plus fort. Voilà. Et que la réponse finale est un travail entre un client et un architecte.
Ouais.
Faut pas imaginer qu'un projet réussi d'architecture n'est que le travail d'un architecte. C'est vraiment le travail d'une collaboration, de nombreux échanges. Et puis, à un moment, on arrive à une forme d'hybridation qui devient très constructive.
Mais très concrètement, comment ça se passe avec tes clients quand tu travailles sur une boutique? Entreprendre dans la mode, donc parlons de mode. Ça commence par quoi? C'est des réunions, des cafés, des voyages ensemble, des échanges de mood board. Raconte-nous tout.
Eh ben, je peux te raconter assez simplement. Moi, je suis une génération très boulimique d'images. J'aime beaucoup quand je démarre un projet, vraiment accumuler des images, mais pas en accumuler une ou deux, c'est accumuler des bottins, des pages entières d'images de référence.
Okay.
J'aime pas les images de référence qui sont liées à mes propres confrères, de dire il y a telle boutique qui s'est fait à tel endroit. Ça je m'en fous.
Okay.
Je préfère absolument m'en défaire parce que je suis influençable comme tout le monde et que j'ai pas envie d'être marqué par un projet d'un confrère qui vient d'être fait. Par contre, j'aime beaucoup les images de référence qui sont liées aux thématiques. Donc on fait des mood boards, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. On travaille exactement comme des stylistes, c'est-à-dire que moi je me souviens d'être allé plusieurs fois chez Margiela et il y avait toujours des murs entiers avec des punaises et puis des références cinématographiques, artistiques, de telle coupe de pantalon qui est bien dans le film de À bout de souffle. Et en fait, on travaille aussi comme ça, nous, c'est-à-dire qu'on vient puiser beaucoup d'images, mais qui ne sont pas des images ni d'architectes, ni d'artistes, etc., qui peuvent être des images glanées sur Google Images. J'arrête pas de dire que moi, j'ai fait mon démarrage avec Google Images, parce que pour moi, c'était une mine d'or, de connaissances. Et après, on commence à échanger avec les clients. Voilà, on leur propose des choses et on va commencer à affiner. Voilà, c'est...
Ça j'aime bien cet élément-là, mais
il pourrait pas aller avec celui-là. Et puis, on commence à esquisser en commun un univers qui est un univers d'hybridation. Et c'est aussi ça que j'adore dans mon métier. Je te parlais tout à l'heure d'un peu d'école de pensée, de courant qui était très fort à certaines époques et qui durait très longtemps. Beaucoup d'écoles de courants d'architecture ont été faits. Moi, j'ai pas l'impression d'en faire fondamentalement partie de aucun. Mais par contre, j'aime mélanger les époques, j'aime mélanger les courants et on est un peu une génération de sampling, comme on a en musique. C'est-à-dire qu'on se nourrit de beaucoup de choses. Et puis, c'est dans l'hybridation de toutes ces périodes, de toutes ces époques ou toutes ces écoles de pensée qu'on
comme
va
la mode,
trouver une voie, quoi, une voie nouvelle.
C'est vrai qu'on est vraiment à une époque de synthèse, finalement, de tout ce qui s'est passé le siècle dernier, et peut-être même avant. Où va l'architecture ?
C'est une très bonne question. Je pourrais pas te répondre si elle va aller globalement dans des chemins positifs ou négatifs. J'ai assez peur, voilà, pour ne rien cacher, de où va aller l'architecture. Je pense que si on ne se réveille pas en valeur notamment environnementale, si on ne fait pas la résistance dont je t'ai parlé tout à l'heure, si on ne fait pas partie de ce groupe de résistants qui va demander à ce que les bâtiments soient systématiquement avec des objectifs environnementaux très forts, je pense que l'architecture va devenir le bras armé de la plus grande consommation énergétique. C'est la première cause de réchauffement de la planète, c'est la construction, c'est pas l'automobile. Donc, en fait, on a une part de responsabilité, de civisme et d'engagement politique qui est extrêmement fort. Mm-hmm. Donc, ce qui est toujours problématique, c'est en même temps d'avoir accès à la commande en faisant de la résistance. Et parce que si on est trop ayatollah sur tous ces... Enfin, si on est trop... une vision trop forte sur tous ces aspects-là, bah, finalement, on finit par ne plus pouvoir construire parce qu'on fait peur. Donc, c'est comment, de l'intérieur, réussir à faire changer progressivement les choses. Donc, je te parlais encore du temps. Il est long. Ça ne peut pas être un instantané. On ne peut pas faire changer toutes les... voilà, toutes les lignes en même temps d'un seul coup. Après, j'ai peur aussi parce que je pense qu'il y a un rôle... extrêmement important qui est l'État, qui doit jouer un rôle dans la construction architecturale pour donner une discipline, aussi un cadre légal d'obligation de fabrication environnementale, mais d'obligation, sinon on n'a pas le droit de construire.
Ça avance ou c'est encore timide ?
Ça avance, mais c'est très complexe, voilà, parce que c'est... parce que les intérêts sont toujours divergents.
Et qu'il y a des lobbies de fous qui font leur travail.
Il y a des habitudes de construction qui datent justement d'après-guerre, où comme il fallait construire très vite, on a été un peu les ambassadeurs du béton, notamment. Mais le béton, aujourd'hui, c'est l'équivalent du diesel pour la voiture. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser un minimum, parce qu'il est très, très polluant. Il est polluant à extraire, il est polluant à transporter. Et il est polluant à démolir. Donc, si tu veux, le cycle de vie global de ce matériau-là est catastrophique. Donc, nous, on remet en place à l'agence en ce moment d'autres systèmes constructifs qui sont beaucoup plus ancestraux. On fait en ce moment deux bâtiments, notamment en pierre de taille. Tu vois, c'est comme on faisait Paris autrefois. Paris est construit de pierre de taille et de poutres en bois et de planchers en bois et de toitures en bois. Et en fait, on se rend compte que ces matériaux très anciens sont très environnementaux. Si on va les chercher à proximité de Paris, il y avait des carrières de pierre autour de Paris. Du coup, tu arrives à réduire les transports et du coup, globalement, ton bilan carbone devient excellent.
Et ça coûte plus cher ?
Eh bien, ça coûte plus cher et ça met plus longtemps à construire. C'est là où je te dis qu'il faut que l'État nous aide aussi. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent sur un chantier. Un chantier, c'est en moyenne, un chantier pour un bâtiment, c'est entre 18 et 22 mois. Quand on décide de vraiment construire avec des matériaux pérennes, lourds, ça peut mettre plus longtemps. Donc, il faut aussi... Il y a une forme d'éducation à faire auprès des maîtrises d'ouvrage, auprès des entreprises de construction et auprès de l'État et des différents ministères qui sont concernés pour nous accompagner et faire comprendre qu'il faut maintenant changer réellement de donne de fabrique. Voilà.
On a tous les mêmes problèmes, j'ai l'impression. Hein. Dans la mode, t'as le polyester, dans la voiture, diesel, etc. etc. C'est quoi la question que j'avais, c'était les autres matériaux de construction, ça m'intéresse, à part la pierre de taille et le bois, c'est quoi les autres techniques ancestrales ?
Eh ben, on se rend compte qu'on revient de plus en plus à des matériaux naturels aussi. J'insiste là-dessus parce que les ressources sont clairement pas épuisées sur les matériaux réellement naturels, pas les matériaux synthétiques de synthèse. Mais je te prends l'exemple de la pierre. Il y en aura toujours. Les carrières ne sont pas du tout épuisées. Le bois, la forêt, elle se renouvelle. Et il faut d'ailleurs la renouveler. C'est intéressant de le comprendre que finalement, couper un arbre, c'est important. C'est important parce qu'il arrive à maturité à un moment et qu'il faut le couper pour laisser place à des nouveaux arbres derrière. Donc, moi, je me souviendrai toujours qu'on avait fait un aménagement urbain assez important pour la mairie de Paris. On avait aménagé les berges de Seine rive gauche et on avait fait des bancs publics en chêne massif. Et tout le monde nous avait dit, mais c'est sûr, tu veux utiliser des poutres en chêne massif pour faire des bancs du mobilier urbain. Et en fait, on sortait de la tempête de 99 où il y avait eu un nombre d'arbres qui avaient été abattus, etc. Et au bout d'un moment, ces arbres, ils pourrissent si on ne les utilise pas. Donc, on avait l'obligation de les utiliser. Donc, c'est comment aussi adapter l'architecture avec les ressources disponibles, mais sans jamais les utiliser à outrance. Voilà, comme toute ressource, à un moment, elle peut s'épuiser.
Ouais.
Et c'est là où il ne faut pas avoir des tics de construction, à dire je vais que construire en bois, ou je vais que construire en métal, ou je vais que construire en je ne sais pas quoi. Il faut être très contextuel. À l'endroit où on construit, peut-être que tel ou tel matériau va être plus environnemental parce qu'on l'extrait à proximité. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place aussi à l'agence. C'est de surtout pas avoir un automatisme de matériaux de construction, mais de bien comprendre le contexte géographique où on va faire un bâtiment pour avoir un impact carbone qui soit vraiment minimum. Et puis, je vais te dire, pour avoir un impact carbone vraiment minimum, il faut arrêter de démolir les bâtiments. Voilà, ça, c'est le premier geste important. C'est que... on a eu l'habitude dans notre milieu de la construction, et peut-être aussi parce que les architectes avaient beaucoup d'ego, de quand ils avaient, ils démolissaient un bâtiment pour en reconstruire un autre, et pour avoir leur image, et pour dans cette volonté d'ego temporel dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, démolir un bâtiment, dans la plupart des cas, c'est une aberration environnementale, mais complète. Parce que ce bâtiment-là, pendant des années, a déjà assumé son carbone. Tu vois, le squelette du bâtiment... Il est là, les matériaux ont déjà été extraits, transportés. Donc, il vaut mieux le réhabiliter parce que globalement, on va avoir un impact d'empreinte écologique beaucoup, beaucoup plus faible dans une réhabilitation que dans une construction neuve.
Il faut faire de l'upcycling.
Voilà, exactement. Mais ça se voit dans le design. Tu me parlais de toutes les matières aujourd'hui. Ouais. C'est, j'ai l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte, mais dans le design, tout le monde est en train d'imaginer le recyclage. C'est pas la peine d'extraire des nouveaux matériaux. On a un siècle devant nous si on devait recycler tout ce qu'on a devant nos yeux, quoi. C'est juste, pour moi, je considère que c'est une banque de matériaux, le recyclage. Et ça, c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que les gens pensent que ça coûte plus cher de recycler et qu'il vaut mieux mettre à la benne et repartir de zéro. Et c'est un vrai travail. On travaille en ce moment, je te parlais tout à l'heure des sociétés que j'avais montées. J'en ai monté, je suis fondateur d'un groupement d'architectes qui s'appelle la Nouvelle AOM et qui est composé de 3 agences d'architectes avec Chartier d'Alix, Sardel-le-Bihan et moi-même. Et on a eu la chance de gagner la réhabilitation de la Tour Montparnasse. Voilà. Donc c'est un gros sujet, très emblématique, etc. Mais qui est un bâtiment des années 70, qui a ses défauts constructifs, comme tous les bâtiments de cette période. Et par exemple, il est composé de 40 000 m² de vitrage noir tout autour. La tour est un monolithe noir. Ce vitrage-là, nous, dans notre projet, on le recycle. Il va rester dans le bâtiment, mais à un autre endroit. Donc, c'est aussi une manière de ne pas l'extraire, de ne pas le sortir en dehors du site. Et s'il reste sur place, ben, globalement, on n'aura pas de camions qui vont les transporter. On ne va pas utiliser d'essence. Et c'est un cercle qui commence à devenir vertueux. Donc on est, je te parlais de réhabilitation, mais l'autre fer de lance de l'agence, c'est aussi le recyclage qui commence à devenir extrêmement intéressant même d'un point de vue créatif.
Ouais. Et tu peux nous donner des exemples par exemple. Et je te demande aussi un truc. Est-ce que tu peux, t'as ton téléphone, non?
Oui, j'ai mon téléphone.
Le mettre en avion parce que j'ai l'impression qu'il y a des ondes qui passent. Ouais. Il y a d'ailleurs des petits messages qui arrivent.
D'accord.
Désolé.
Je le fais tout de suite. Pardon. J'espère que ça n'a pas gêné.
C'est très léger, mais...
Voilà, mode avion.
Ouais. Ouais, sur le recyclage, merci beaucoup.
Ben, sur le recyclage, c'est une discipline qui commence à devenir extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, on a devant nos yeux une banque de matériaux infinie. Le recyclage, la seule chose qui est problématique, c'est la pollution liée à ces matériaux. Il y a certains matériaux qui sont pollués. Nous, on travaille très souvent sur des bâtiments qui sont amiantés, qui est un des scandales sanitaires de la construction, mais demain, il y en aura d'autres. Peut-être que demain, on va s'apercevoir que les PVC qui font les fenêtres sont une pollution pour le corps. Et dans ces cas-là, on aura... on va utiliser la même politique pour se débarrasser de ces matériaux pollués. Tout est recyclable d'une certaine manière. Tout.
Et typiquement, là, les vitres de cette tour Montparnasse, vous allez en faire quoi?
Alors, c'est intéressant parce que c'est un vitrage qui est un simple vitrage. Donc, il n'a aucune propriété thermique. La tour Montparnasse est réputée pour être ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est-à-dire que voilà, elle n'a pas d'enveloppe, elle n'a pas de manteau. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on la réhabilite lourdement, c'est qu'il faut faire sa révolution environnementale. Donc, c'est du simple vitrage. Donc, ce simple vitrage, on ne pourrait plus le réexploiter pour réaliser une nouvelle façade. On ne pourrait pas réhabiliter ce verre pour en faire la nouvelle façade de la tour. Et donc, on a décidé de travailler le vitrage comme un parement intérieur. Voilà, c'est qu'au lieu de mettre des panneaux en bois sur les murs ou des panneaux en pierre, comme on voit souvent, on va utiliser ce vitrage pour venir le plaquer au milieu de la tour, sur tout le tronc d'arbre de la tour. C'est là où on a les 30 ascenseurs, les deux escaliers de chambord. C'est vraiment le cœur central de la tour et on va venir le plaquer au centre. Donc, d'accord, il est hors d'eau, hors d'air et il devient presque esthétique à l'intérieur de la tour. Et c'est intéressant pour nous parce que c'est aussi un clin d'œil entre l'histoire et la modernité. C'est-à-dire que nous, on a toujours dit que cette tour, on l'aimait, même si elle est peu appréciée par beaucoup de Parisiens, mais nous, elle fait partie de l'histoire de la construction parisienne. Et on a toujours été bienveillants par rapport à cette tour-là, voilà. Même en réhabilitation lourde.
Ouais, très bien. Alors, tu le disais tout à l'heure, hein, vous êtes une quarantaine aujourd'hui. Comment on construit son équipe dans un atelier comme le tien ?
C'est ce qu'il y a de plus dur. Alors, quand je dis c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est que il faut s'encadrer de gens qui sont très différents de ce qu'on est. Mais à l'agence, il y a des designers, il y a des normaliens, il y a des urbanistes, il y a des infographistes, il y a eu des géographes. Et moi, j'aime bien cette idée d'un atelier qui est vraiment pluridisciplinaire. C'est peut-être lié à mes études. Je t'en parlais tout à l'heure avec Glasgow. C'est que je suis convaincu que pour aborder une problématique quelle qu'elle soit, plus on a de matière grise autour de cette problématique, plus la réponse risque d'être juste. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de m'encadrer de gens qui sont très différents. Voilà. Et ça met longtemps. Voilà. Ça met longtemps à définir ses profils, à comprendre ses carences intellectuelles aussi, à comprendre ses carences techniques. On a beaucoup d'ingénieurs aussi en interne. Et j'aime bien me dire qu'on a un atelier qui est composé d'architectes et d'ingénieurs, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, je me considère comme un technicien et je trouve que ce n'est pas négatif du tout. Et j'essaie de réconcilier justement l'architecture et l'ingénierie parce que ça a toujours été deux disciplines souvent en contradiction, souvent en opposition dans l'histoire de l'architecture mondiale. On a souvent opposé les architectes qui sont un peu les foufous créatifs. Du coup, on leur met dans les pattes des ingénieurs pour que le truc tienne à peu près la route et que ça ne s'écroule pas au bout de deux secondes. Mais dans le fond, les deux métiers sont faits pour être réunis parce que c'est comme ça qu'on arrivera à fabriquer les bâtiments les plus intelligents et les plus durables.
C'est quoi la culture d'entreprise chez Franklin Asie ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Culture d'entreprise, elle est difficile à définir parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez dur dans la vie de tous les jours, dans mon métier, parce que je suis quand même très exigeant. Je suis très exigeant, mais je suis toujours juste. C'est-à-dire que je ne suis jamais injuste quand on doit avoir une discussion avec un employé sur tel ou tel sujet, etc. J'essaye d'être juste. Voilà. Mais c'est une culture d'entreprise un peu de... Voilà, moi, je respecte beaucoup le travail. Faut être clair, moi-même, j'aime beaucoup travailler et je n'ai jamais réellement compté mon temps. Et à partir du moment où on fait de la recherche au sein d'une agence, c'est quand même beaucoup plus simple de faire passer ce flambeau aux gens qui nous entourent. Donc, c'est une culture quand même d'entreprise de travail très forte. Quoi. Après, il faut forcément compenser cette grande intensité de travail que je demande à tous mes salariés et à tous mes collaborateurs par une qualité de vie aussi très forte. Moi, je sais que je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je vais tout le temps boire des bières avec toutes les équipes et que j'aime bien, franchement, le vendredi, voilà, être très proche d'eux et me la coller sévère et refaire le monde avec eux.
Ouais.
Et ça me met dans une autre situation. Voilà. Ils me voient sous un autre jour et c'est quelque chose... J'aime bien les deux. Voilà. J'aime bien avoir un peu ces deux profils.
Et... D'après ce que je comprends, le métier d'architecte, de designer, surtout d'architecte, il y a souvent ce qu'on appelle des charrettes. Pourquoi c'est un métier dans lequel il faut être en charrette ? J'ai l'impression que c'est un peu une revendication, quoi. Je suis en charrette.
Alors, c'est marrant la notion de charrette. Je vais juste faire un petit aparté historique, mais la charrette, l'histoire, c'est que à l'école des Beaux-Arts, quand on faisait un rendu, c'est-à-dire qu'on terminait un exercice, on le dessinait sur des grands rouleaux de calque, etc. Et il y avait effectivement une charrette qui passait pour récolter tous les dessins.
D'accord.
Et donc, tous les gens qui étaient en retard et qui n'avaient pas fini de dessiner leur truc, ben, se disaient « Ah, il y a la charrette qui arrive mmh. ». Voilà. Et donc, il fallait qu'ils posent leurs dessins et ça voulait dire que l'exercice était terminé.
D'accord.
C'est comme quand on lève le crayon. Voilà.
Okay.
Donc, la notion déjà de charrette vient de là.
Mmh.
Et ensuite, je vais te dire un truc, c'est qu'il y a effectivement des agences qui sont souvent charrettes mmh. et d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'ai... Dans mes débuts de carrière, j'étais souvent charrette. Souvent, on était tout le temps à la bourre, il fallait tout le temps qu'on termine, on était en retard, etc. On avait pris des décisions tardives qui nous demandaient de redessiner le projet, etc. Mmh. Mais plus j'avance dans la vie, plus je me dis que c'est presque un défaut pour une agence d'architecture d'être charrette.
Mmh.
Et qu'aujourd'hui, je préfère clairement anticiper les problématiques. Et on a un métier dans lequel on conçoit. On intellectualise un projet, mmh. on le représente, et il faut un peu dissocier les deux, entre le fait de faire le projet et de le représenter.
Mmh.
Et nous, quand on se met à le représenter, on est une machine de guerre à l'agence. Mais vraiment une machine de guerre parce qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents mmh. en graphisme, en mmh. images de synthèse, en représentation du dessin de l'architecture. Et j'aime me dire qu'on n'est pas charrette et on ne l'est pas souvent.
Mmh.
Et je préfère parce que ça veut dire que tu arrives à une qualité à la fin d'exécution où tu as réussi à gérer ton temps
mm.
pour vraiment, à la fin, peaufiner, fignoler, être dans la dernière virgule, quoi.
Dans le fine-tuning.
Et ce qu'on ne
ouais.
peut pas vraiment faire quand on est charrette, parce qu'on est dans une telle urgence de représentation mm. qu'on finit par faire des erreurs, presque, de rendu.
Mm. Mm. Et comment vous gérez cette idée ? C'est assez antagoniste, parce qu'il faut être à la fois très créatif, très sensible, etc. J'ai le sentiment que c'est un peu comme un chef en cuisine où il doit être très sensible quand il fait sa recette et trouver la bonne saveur. Et en même temps, dans l'exécution, c'est hyper violent. Enfin, mmh. être sur un chantier, réunion de chantier, c'est dur, quoi. Comment tu gères ça, toi ?
C'est là où je te dis que quand t'es architecte, t'es forcément un peu schizo.
C'est-à-dire ouais,
que
schizophrène.
Il y a vraiment une notion de multiples personnalités. Voilà.
Mmh.
Parce que tu peux être dans des périodes d'ultra séduction, très mmh. sensible, etc. Et puis par moment, il faut vraiment passer en mode warrior et c'est la guerre.
Ouais.
Voilà. Et c'est la guerre. Et toi, tu défends les intérêts du projet et tu dis non, 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 non.
Mmh.
Et voilà, c'est comment réussir à faire, à avoir ces deux personnalités mmh. ensemble.
Mmh.
Et c'est aussi, moi j'en parle souvent avec mes collaborateurs, c'est-à-dire que. Le Graal pour un architecte, c'est de faire du chantier. Parce qu'ils pensent tous que c'est super de faire un chantier parce que c'est la finalité du mmh. geste posé, justement de la connaissance technique, comme un médecin sur une table d'opération. Mmh. Il y a quelque chose de séduisant,
mmh.
je comprends. Mais ça demande beaucoup d'expérience de faire un chantier. Parce que ça demande... La première expérience, c'est une expérience humaine, c'est de savoir contrer des mmh. gens qui mmh. sont puissants.
Mmh.
Et ça demande un peu d'expérience, effectivement.
Mmh. Et comment t'as des tips là-dessus ?
J'ai des tips, alors j'en ai pas beaucoup. Moi, je le dis souvent à l'agence, j'ai plusieurs types de personnalités à l'agence. J'ai mmh. les personnalités nordiques,
ouais.
donc c'est des gens qui sont un peu durs, qui savent tenir tête,
ouais.
Qui défendent les intérêts, des valeurs de la société. Et puis j'en ai d'autres qui sont des latins. Et qui, du coup, savent faire de la séduction, savent aller parler avec une entreprise pour qu'il y ait des modifications, mais sans que... Mmh. on se fasse taper sur le coin de la nuque à ce que ça coûte plus cher et que ça me mette plus longtemps. Et il y a un mix de ces deux personnalités à l'agence qui est très important. C'est mmh. en même temps le côté très cartésien, très, voilà, très froid, très mmh. réfléchi. Et mmh. puis, une autre personnalité beaucoup plus spontanée, beaucoup mmh. plus latine,
mmh.
Qui est plus dans la séduction et dans, mmh. Dans le rapport avec les gens. Quoi.
Mmh.
Il faut avoir les deux.
Mmh. Et toi, tu as les deux ?
Moi, je crois que j'ai les deux.
Ouais.
Voilà. Je crois que j'ai les deux. Après, je les ai cultivés parce que j'ai une dominante de personnalité un peu latine. Voilà.
Ouais.
Et par moment, bah, ouais. ça suffit pas. La séduction suffit pas et il faut mm. Réussir à prouver de manière assez scientifique que tu as raison.
Mm.
Et là, du coup, je deviens un peu nordique.
C'est quoi tes plus grands défauts à toi ?
Tu sais, les défauts, on sait jamais si c'est des qualités. Donc, moi, j'en ai un qui est... vraiment comme le nez au milieu du visage chez moi, c'est je suis extrêmement maniaque.
Mm.
Mais je me rends compte qu'au fil du temps, ça finit par être une qualité aussi dans mon métier.
Mm.
C'est-à-dire l'exigence de quelque chose de bien construit. Donc je suis très maniaque. Et en fait, ça ne me dérange plus trop.
Mm.
Je suis maniaque aussi parce que j'ai des obsessions. Je suis très obsessionnel. Je suis obsessionnel sur les objets. Il y a des objets qui m'environnent sont obsessionnels.
Lesquels ? Voilà.
J'ai quelques passions. Voilà, sur, j'aime beaucoup les objets qui viennent de l'armée. Alors, je suis pas du tout. Je suis totalement contre la guerre, mais par contre, je suis assez fasciné par la recherche et développement qu'il y a pu avoir autour de l'armée des objets. Mmh. Tu sais, tous les stylistes sont souvent assez fascinés par les uniformes, bien par la qualité d'exécution des uniformes. C'est qu'ils sont produits en tellement grand nombre qu'on arrive un peu à la perfection de l'objet, tu vois, parce qu'on a l'obligation de résultat avec un objet militaire, parce qu'il est un peu en rapport entre la vie et la mort. Donc, il y a cette obligation de perfection. Mmh. Et je suis fasciné par tous ces objets, que ce soit l'architecture militaire, les véhicules militaires. Et je pense que l'armée, pendant une période, a fait beaucoup de recherche et développement. Ça me fascine de l'analyser. Et je l'aime aussi parce que on est dans une société en ce moment qui met beaucoup en avant les créatifs. C'est très bien. Mais j'aime aussi les objets qui n'ont pas de pair. Et en fait, souvent, pas de pair créatif, au sens pas de designer. Voilà, il n'y a pas un Stark derrière. Et je me rends compte que finalement, ça nous permet d'atteindre l'essence de l'objet sans avoir l'enrobage marketing lié au designer ou au directeur artistique qui, pour moi, rajoute pas grand-chose à l'objet. Et un objet, pour moi, il est fonctionnel et c'est ça qui fait sa beauté la plupart du temps. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment les objets de l'armée.
Si tu étais designer de mode, tu serais qui ?
Je crois que je serais Margiela. Voilà.
Ouais, ça a du sens.
J'en aime beaucoup, beaucoup d'autres, mais j'aime beaucoup d'autres créateurs, mais je crois que oui.
Et tes héros dans l'architecture et le design, c'est qui ?
C'est des questions de génération, encore une fois, mais moi, j'ai adoré des périodes de la construction. D'après-guerre aussi, avec, je parlais tout à l'heure d'Oscar Niemeyer, qui est un architecte brésilien, qui est mort à 104 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Alvar Aalto, j'aime beaucoup Le Corbusier à certains égards, mais après, j'aime aussi des architectures très contemporaines. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Jean Nouvel, parce que je trouve qu'il est quand même très précurseur sur beaucoup de choses. Mais c'est un scénographe, c'est pas un architecte. Un architecte comme Rem Koolhaas fait des très beaux projets aussi, et je l'aime beaucoup. Et finalement, plus je vieillis, plus je me dis que les architectures que je préfère, c'est celles qui sont encore une fois durables. Et un architecte comme Piano est imparable là-dessus. C'est un architecte qui est totalement intemporel. Tous les bâtiments qui sortent sont magnifiques et sont jamais plus à la mode. Enfin, au sens, moi je déteste me dire que l'architecture doit être à la mode, mais. Mais encore une fois, il passe les époques avec
brio.
Brio. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup de signatures, beaucoup d'architectes. Et j'en découvre surtout tous les ans des nouveaux.
Moi, j'aimerais qu'on parle d'acquisition. C'est un sujet que j'aime bien parler dans mon podcast. C'est finalement, comment tu arrives à avoir de nouveaux clients ? Et il y a une autre question que je te pose qui est, je pense, assez proche. C'est... pourquoi tu as un bureau d'attaché de presse ? Pourquoi c'est important quand on est architecte d'avoir ça ?
C'est une super question. Et je vais y répondre très franchement. Les deux sont d'ailleurs liés, en fait. L'accès à la commande, elle est très dure pour un architecte. Elle est dure parce que, historiquement, l'accès à la commande a souvent été lié à des concours. Voilà. Les concours sont extrêmement durs, peuvent être aussi très décevants pour un architecte, parce qu'on a beaucoup d'échecs dans une carrière d'architecte, et il y a peut-être 80% d'échecs pour 20% de réussite dans les concours. Et donc cet accès à la commande, il est tellement douloureux par moment, qu'il faut essayer de l'accompagner, voilà, pour qu'il le soit moins. Et un attaché de presse, pour moi, c'est très important, et je travaille avec David Giroir depuis très longtemps, parce qu'il va m'aider aussi à définir quel est mon mode de communication avec l'extérieur, quels sont les messages très importants que j'ai envie de faire passer, quels sont les médias dans lesquels je souhaiterais diffuser aussi, et c'est très important. C'est vrai que moi, je préfère parler au plus grand nombre, c'est un peu mégalo comme idée, mais c'est aussi parce que j'ai l'ambition dont tu as parlé tout à l'heure de pouvoir changer les choses. Voilà. Donc pour changer les choses, faut avoir des commandes. Pour avoir des commandes, il y a un moment, faut être médiatisé. Voilà. Donc
il faut être connu.
Il faut être connu et faut, mais pas connu au sens les magazines tabloïdes. Ça c'est pas, ça n'a jamais été mon truc. Mais être connu, c'est-à-dire que si jamais un jour il y a un sujet de société dans lequel l'architecture est, joue un rôle, qu'on pense à toi pour en parler, voilà, de manière généraliste. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je suis souvent content d'être présent dans la presse dite généraliste, plus que la presse spécifique, professionnelle, etc. Parce que ça me force aussi à forger un discours de compréhension. Voilà.
Donc, ça veut dire que tu prends souvent la parole dans des magazines généralistes ou sur des tables rondes, etc. Tu fais ce travail-là?
Oui, je fais ce travail-là et j'aimerais bien le faire de plus en plus. Voilà. Et ça me paraît important de dire que l'architecture n'est pas juste un business, encore une fois. Ce n'est pas juste comme si on avait une usine de stylos. Ouais. Où, c'est un métier qui est entièrement politique et on ne peut pas se le cacher. On est... tantôt l'organe du pouvoir, tantôt l'organe d'une certaine manne financière. C'est un métier du pouvoir et comment le faire autrement, c'est-à-dire réussir à faire émerger des nouvelles valeurs, etc., alors qu'on est dans le cœur d'un réacteur qui a beaucoup de mal à changer, quoi. Et ça, c'est vrai que d'avoir des tribunes ouvertes dans la presse pour pouvoir en parler... ben, permet de poser ces valeurs dont je te parle qui vont peut-être changer les choses d'après sur le recyclage, sur la réhabilitation, sur voilà, sur tout ce dont je t'ai parlé tout à l'heure qui pour moi sont les vraies valeurs qu'on doit défendre. Mais il faut quand même avoir à un moment le gigaphone qui permet d'en parler et le gigaphone, il se trouve que ce sont les médias. Voilà.
Ça coûte cher de travailler avec Franklin Asie?
Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en temps, ça coûte cher, oui, ça coûte cher, oui, ça coûte cher, mais c'est pas au sens pécunier du terme forcément, mais oui, ça coûte cher parce qu'il y a ce degré d'exigence globale, c'est pas que le mien d'ailleurs, c'est là où je suis aussi content de l'atelier qu'on est en train de fabriquer, c'est que il y a un degré d'exigence globale. Il n'y a pas que moi maintenant qui l'ai, mais tous les gens qui m'encadrent, qui m'entourent, mes collaborateurs, ont cette envie d'exigence. Et donc, pour ça, oui, ça coûte cher. Ça peut coûter cher.
Juste pour revenir sur l'organisation en interne, avec, donc tu nous as parlé de ces différents métiers. Tu as une force commerciale aussi? Tu as des gens qui sont là que pour aller chercher des projets?
En interne, on a... on fait ce qu'on appelle du développement. J'aime pas ces noms. Hein. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tous les noms qui sont vraiment liés à l'entreprise pour moi. Et je suis
tu
un
détestes.
Peu.
Tu me disais que t'aimais.
Ça me hérisse un peu le poil. J'aime pas le marketing.
T'aimes pas le marketing. Pas pourquoi t'aimes pas le marketing? Tu me disais ça en intro tout à l'heure.
Mais par contre, clairement, oui, on fait du développement. On fait du développement. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir ce qui se fait dans les territoires. C'est important de savoir s'il y a des grands projets à Lyon, à Bordeaux. C'est important de savoir quand il y a eu des changements politiques dans les mairies parce que peut-être que les ambitions vont tout d'un coup être meilleures ou et ils vont lancer des grands projets. Donc, il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être... faut toujours savoir ce qui se passe quand même dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est bien ça sûr. Que j'appelle moi du développement. Et que on puisse bien me conseiller, me faire rencontrer aussi les bonnes personnes, les bons commanditaires. Donc oui, il y a du développement. Mais jusqu'à maintenant, j'avais plutôt une société qui marchait un peu comme le bouche à oreille. C'est-à-dire, c'est comme quand tu vas chez le dentiste et que tu as pas mal aux dents. Et alors, en sortant de la séance, tu vas dire à ton pote...
je te le conseille.
Je te le conseille parce que ça m'a à peine fait mal.
Ouais.
Bah, y a aussi un petit peu ça avec l'architecture. Par moments, elle peut être douloureuse. Ouais. Ça existe les mauvais projets, ça existe les mauvaises relations entre un client et un architecte. Mais moi, j'ai l'impression... Je trouve que c'est un bon baromètre de qualité. J'en parle souvent à mes équipes. C'est que quand on est quand même réinvité souvent par les mêmes clients, etc., ça veut aussi dire qu'on a trouvé une entente et qui est plus qu'une entente. C'est-à-dire qu'on ne leur fait pas mal, quoi. Au contraire.
Typiquement, comment tu crées cette relation avec les gens? Parce que je trouve que c'est hyper important et c'est hyper intéressant comme point que tu soulignes là. C'est... établir une relation franche, sereine avec son client, comment tu la mets en place, cette relation?
Ben, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais un peu latin, même majoritairement latin dans ma manière d'être. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand même quand je démarre avec un client, etc., avoir une réelle relation humaine, c'est-à-dire des vraies discussions, aller boire des coups, histoire que voilà, on sorte d'un cadre traditionnel de travail, etc. Et ça me permet aussi de mieux les comprendre, voilà. De mieux comprendre une commande, de mieux comprendre leurs souhaits. Et finalement, je trouve que la mise à distance entre le client et l'architecte, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Par moment, elle est de fait, parce que c'est vrai, quand tu as une grosse commande d'État, de commande publique, le client en face, tu as du mal à le... C'est pas une personne, c'est un ministère, c'est une région, et dans ces cas, c'est très difficile d'identifier la personne. Et c'est pour ça que souvent, c'est des commandes qui sont plus compliqué à appréhender, parce que tu es obligé d'avoir la double casquette. Tu es obligé de te mettre d'un côté comme si tu étais le client, de l'autre côté comme si tu étais architecte, parce que tu n'as personne en face. Donc voilà, moi, j'ai une manière assez naturelle de dialoguer avec les clients et d'essayer de comprendre ce qu'ils souhaitent.
Tes objectifs, là, à 5, 10, 20 ans, quels sont-ils ?
J'ai des objectifs... Ça reste quelque chose d'assez mathématique. C'est vrai que ma vie n'est pas un tableau Excel, donc je ne me donne pas des objectifs, disons, numéraires. Par contre, j'ai vraiment des objectifs et des envies. Je dirais plutôt des envies que des objectifs.
Ouais.
On a monté récemment avec la société un fonds de dotation d'art contemporain. Qui est quelque chose pour moi d'extrêmement important. Je le dis parce que, en fait, ça me prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et parce que je suis tout à fait passionné par ça. Et je le suis depuis longtemps parce que on accompagne des artistes depuis très longtemps à fabriquer leurs œuvres comme un bureau d'études, comme un ingénieur, comme avoir aucune velléité d'artiste. Mais on se rend compte que par moments, ils ont besoin d'aide. Ils ont réellement besoin d'aide constructive. Parce que maintenant, une œuvre d'art, elle peut être monumentale, elle peut avoir des problématiques de fondation, d'étanchéité, de pérennité des matériaux, tout ce dont je parlais tout à l'heure. Et j'adore accompagner les artistes là-dessus. Et j'ai l'impression de servir à quelque chose. Voilà. Et j'aime aussi, faire la promotion d'artistes, enfin, de les diffuser, d'arriver à les diffuser, à montrer leurs œuvres. Et c'est peut-être aussi parce que je pense qu'on arrive un peu à la fin de l'ère des galeries au sens traditionnel, où les artistes ont besoin d'être exposés ailleurs, ils sont pas obligés d'être dans une boîte blanche. Et du coup, on a monté ce fonds de dotation dans lequel on fait 2 expos par an. Il y a souvent une exposition collective dans laquelle on réunit 10 ou 12 artistes. Et puis, de ces 10 ou 12 artistes, je fais après ce qu'on appelle un solo show avec un seul artiste qui va pouvoir s'exprimer pendant un mois, deux mois. Et on a la chance d'avoir ces locaux à la Bourse, ici, là où tu es aujourd'hui, dans le 2e arrondissement, qui sont grands. Je les ferai visiter tout à l'heure. Et dans lequel j'ai certains espaces un peu en jachère. Et j'adore l'idée d'avoir ces espaces en jachère parce qu'ils peuvent accueillir des événements importants. Donc, quand tu me parlais d'objectifs tout à l'heure, moi, j'ai un objectif qui est clair, c'est d'intégrer beaucoup l'art dans les projets d'architecture, de promouvoir l'art contemporain aussi. Ça me permet d'avoir un oxygène important. C'est important aussi pour les gens de l'agence de savoir que je partage des valeurs autres qu'uniquement les valeurs architecturales, mais que je suis très intéressé par d'autres disciplines. Donc ça, c'est un objectif pour moi. Voilà. Enfin, c'est une envie, encore une fois, je répète.
Pourquoi c'est important, l'art ?
Je pense que l'art, il est primordial parce que il a moins de contraintes que l'architecture, d'une certaine manière. Donc, il a forcément un degré d'expression qui est plus fort, à mon sens. Donc, j'aime bien l'idée que l'art soit très intégré dans les projets d'architecture, même au-delà du 1% artistique de André Malraux, etc. Je pense que l'art doit être en permanence, quoi. Il doit être absolument partout, dans tous les espaces publics, dans tous les projets d'architecture. Il doit être absolument partout. Voilà. Et il doit être partout pourquoi ? Pas que pour des raisons esthétiques, plastiques, etc., mais parce que il y a quand même une parole dans l'art qui s'entend beaucoup plus facilement. Voilà. C'est toujours compliqué quand on est architecte parce que on signe nos bâtiments, mais on est responsable de tout. Comme on signe nos bâtiments, s'il y a le moindre problème, on est responsable. Parce qu'on identifie le bâtiment avec cet architecte. Donc, voilà. Un artiste, il a des jokers permanents. Et c'est ça que j'aime bien. Quand il a la permission, d'être subversif. Il a la permission de changer les choses. Il a toutes ces permissions parce que c'est quasiment dans le cahier des charges d'un artiste. Mmh. C'est de remettre en cause les choses et de révolutionner les choses et de les réinterroger et de les... Et je trouve que c'est une bonne manière d'associer l'art et l'architecture parce que il y a une carence en architecture qui est sur cette liberté d'expression. Parce qu'aussi, c'est très, très, très technique, ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est que c'est rare très de faire un bon bâtiment. C'est rare parce que c'est un chemin de croix pour arriver à un bon bâtiment. Tellement c'est compliqué en termes de règles, de normes, de commandes, d'argent. Un artiste a plus de liberté. Donc voilà, un objectif, c'est accompagner l'art dans toutes ses formes, en diffusion d'art, en aidant les artistes à fabriquer leurs œuvres. On a réalisé récemment un projet dans le 7e arrondissement qui s'appelle Beau Passage, dans lequel il y a l'insertion de 6 œuvres d'art. C'est un projet qu'on a fait avec Laurent Dumas, qui est le dirigeant de Emerige, qui est un grand promoteur. Je dis bien grand et pas gros. Je dis grand parce qu'il a vraiment... je trouve qu'il amène la promotion vers un endroit où il faudrait que tout le monde soit. Et il accompagne les artistes, il est très investi là-dedans.
Et tu accompagnes qui comme artiste en particulier?
Alors, c'est encore une fois, il y en a beaucoup. La dernière expo qu'on a fait à l'agence, c'est un artiste qui s'appelle Thomas Mailander, que j'aime beaucoup et qui est assez subversif, qui change de média très souvent. Il est photographe de formation, mais il avait réalisé pour l'agence deux grandes installations. On était dans le parcours des Nuits Blanches. Il avait fait une première installation absolument magique, qui était une sorte de serre agricole qui était posée au milieu de mon bureau d'une grande échelle, dans lequel il a fait imprimer des couchers de soleil. Parce que c'est un grand collectionneur, il collectionne les livres dans lesquels il y a des couchers de soleil. Et c'était très très beau parce que le coucher de soleil, il y a toujours 4 couleurs. Il y a le orange, le rouge, le blanc et le noir. Et il avait réussi à créer une sorte de camouflage de ces couleurs qui était sublime. Après, on a travaillé avec des artistes pour les aider avec leurs œuvres, notamment avec Tatiana Trouvé, qui est une artiste française assez renommée, pour laquelle on a fait un projet en Australie, un projet à New York. Un projet à New York qui s'appelait Desire Lines, très beau, dans plein cœur de Central Park, mais qui était un projet tellement grand en termes de taille qu'elle avait besoin d'un architecte pour dessiner des fondations. Et c'est là où ils arrivent à la limite de ce qu'ils savent faire aussi. Par contre, moi, je peux prendre le relais. On a exposé beaucoup de gens à l'agence, mais je sais pas si on peut mettre des liens sur ton podcast ce serait intéressant parce que comme j'aurais pas le temps de parler de toutes ces personnes qu'on a eu la chance d'exposer, mais ce serait bien que
je mettrais dans les notes de l'épisode
un petit lien sur le fonds de dotation parce que ça aide les artistes et c'est toujours bien.
D'ailleurs, un fonds de dotation, c'est compliqué à mettre en route.
C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est même assez simple.
Voilà. D'accord.
C'est assez simple et ce qui est amusant, c'est que ça fait 10 ans que je fais ça, mais qu'à un moment, on m'a dit, c'est généreux de faire ça de ta part parce que moi, je suis pas un galeriste. Je ne touche pas d'argent quand un artiste va vendre une œuvre dans le cadre d'une exposition ici. Je suis pas du tout un galeriste. Il n'y a pas de relation financière. Par contre, on aide à produire. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des artistes pour qu'ils produisent des œuvres. Mais au bout d'un moment, c'est de la promotion de l'art contemporain et tous les gens autour de moi m'ont conseillé de monter un fonds de dotation parce que c'est de l'argent on est un peu le relais de l'État aussi sur la diffusion de l'art contemporain. C'est normal qu'on ait une forme de défiscalisation et je l'assume complètement. Mais c'est vrai que pendant 15 ans, je l'ai fait sans ça parce que j'imaginais pas qu'd'un point de vue administratif, c'était nécessaire de le faire. Maintenant, je suis content de l'avoir monté. Voilà.
Pourquoi est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que le travail de galeriste va disparaître ou c'est quoi ton point de vue par rapport à ça?
Il va pas disparaître, mais je peux pas dire ça. Ça serait vraiment dur pour les galeristes parce qu'encore une fois, je les ai un peu critiqués tout à l'heure, mais c'est quand même des gens qui sont aussi très très dévoués sur une cause qui est l'art et je les critique absolument pas là-dessus. Non, moi c'était plutôt sur le lieu. Ouais. Voilà, c'est l'idée de toujours exposer dans un même lieu qui est toujours une boîte blanche avec des fluorescents. Il y a d'autres lieux pour exposer. Voilà, les lieux sont multiples. Dans les années 60, tu avais les courants qui étaient anti-galeries, qui exposaient dans la nature. C'est comme ça que le land art a émergé, le street art. Enfin, y a tellement d'autres formes d'art qui n'ont pas besoin d'être entre quatre murs. Et je trouvais que c'était intéressant d'exposer des artistes dans un milieu de travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une expo ici, bah, c'est aussi un bureau. Mais tout d'un coup, tu tombes sur une œuvre d'art un peu grande et ça interroge. Et ça me permet d'intégrer l'art aussi à la vie de tous les jours et qu'elle ait cette présence permanente dont je parlais tout à l'heure.
Tu as fait des bâtiments à l'étranger ?
Alors, on a énormément construit à l'étranger à une époque. Voilà. J'ai eu une époque où, effectivement, je voyageais beaucoup. Où je devais avoir un bilan carbone absolument catastrophique. Dégueulasse, catastrophique. On travaille moins à l'étranger.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a beaucoup moins de commandes à l'étranger et que beaucoup d'États sont devenus un peu protectionnistes et préfèrent privilégier les architectes locaux. Ce qui, dans le fond, ne me dérange pas. Je comprends. Voilà, je comprends cette forme d'envie de non-internalisation de l'architecture. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure d'une architecture qui doit être contextuelle par rapport aux matériaux, par rapport aux techniques de fabrication, j'aimerais travailler à l'étranger. Mais je trouve qu'il faut trouver une autre manière de travailler à l'étranger. Et aujourd'hui, on fait des projets, on a quelques projets en Chine, on a construit à Los Angeles, à San Francisco, à New York, à Séoul, à Hong Kong, à Shanghai. Donc on a construit beaucoup à l'étranger, notamment en accompagnant des marques de luxe à s'implanter à l'extérieur. Mais maintenant, on trouve une autre manière de travailler. Je veux dire, il y a des nouveaux, tout le monde fait du Zoom et du Teams en ce moment, mais je me rends compte que dans l'étape d'un projet, par moment, il y a deux réunions clés où tu dois réellement être là physiquement et c'est très important parce que tu dois valider des prototypes, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué de le faire par Zoom parce que tu vois pas la rugosité, la matérialité ou l'odeur même de certains bois qu'on mettra en œuvre. Et là, c'est important d'être là physiquement. Mais sinon, 99% des rendez-vous que je faisais autrefois en prenant l'avion, ne servent absolument à rien. Et maintenant, je profite aussi de la période de post-Covid pour rééduquer un peu l'agence. C'est-à-dire qu'il faut savoir la nécessité de réunion physique de celle qui ne l'est pas. Et ça me paraît important parce que le déplacement des corps dans l'espace, c'est une raison d'aberration environnementale. On peut très bien faire une réunion extrêmement fructueuse et extrêmement productive à distance. Et on en fait de plus en plus.
Carrément. Qu'est-ce qui fait que tu auras réussi ta vie ?
C'est de rendre globalement les gens heureux avec la production qu'on fait tous les jours. Je crois que c'est la seule réussite, en fait. C'est la seule réussite que je peux imaginer. Mais du coup, si les gens sont très heureux avec les bâtiments qu'on peut faire, ou les restaurants, ou les hôtels, et s'ils durent, là, je serais très content aussi. Je le dis et je le redis, pour moi, l'architecture n'est pas du tout quelque chose c'est quelque chose de très pérenne pour moi. Et plus un bâtiment va durer pour des bonnes raisons, plus je serai heureux. Voilà.
D'ailleurs, tu disais que tu étais assez inquiet quand même. Mais est-ce que tu as des raisons d'être optimiste quand même pour la suite ou...
Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Après, c'est un peu dur ce que je suis en train de dire pour pour tes auditeurs, mais j'ai plein de raisons d'être optimiste, mais ces raisons-là, elles sont que par le changement. C'est-à-dire qu'elles sont que... Et tu me parlais tout à l'heure des médias, c'est-à-dire que si les médias sont du côté des gens qui essaient de changer les lignes, là, on va peut-être gagner un combat. Mais ça n'en prend pas le sens. Pour moi, le fait presque qu'il y ait encore des défilés de mode extrêmement dispendieux, où on déplace des matériaux et qu'on démolit le soir même, etc., il y a des choses qui commencent à me poser problème dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Et qui pourtant restent moteurs de la plupart des magazines, de la plupart des annonceurs, de la plupart de... Donc il y a quand même des lignes à changer. Et je pense que les médias alternatifs sont peut-être quand même une solution pour que finalement ça devienne une fierté d'être alternatif. C'est ce qui est en train d'arriver sur les cycles courts de nourriture, sur y a quand même des lignes qui changent. Mais il faut être accompagné. Voilà, il faut être accompagné par certains médias, il faut être accompagné pour que ces lignes changent. Mais il y a beaucoup de disciplines dans lesquelles c'est en train de changer, et vraiment pour des bonnes raisons. C'est vrai que la période Covid a appris aux gens que c'était finalement très très bien de pouvoir consommer une asperge qui vient de 10 km à un producteur direct. Et ça, je pense que c'est rentré dans les mœurs. Mais ça met plusieurs générations entre les mœurs. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre... la génération capitaliste que je suis, dont je fais encore partie, hein, puisque j'ai vraiment né du capitalisme, je suis né en 75, donc j'ai connu les années 80, j'ai moi-même du mal à me défaire de beaucoup d'habitudes, de beaucoup d'automatismes. Et là, je pense que si je dois parler d'optimisme, c'est les prochaines générations. Mais nous, il faut qu'on enclenche et on a un rôle... pour enclencher ces nouvelles valeurs.
C'est qui les figures de proue de l'architecture alternative plus sustainable, plus responsable à part toi?
Non, d'abord, je ne suis clairement pas le seul. Mais, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout le monde fait de la recherche un peu à son niveau. C'est toutes les agences, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, finalement font de la recherche sur ces enjeux dont on est en train de parler. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment fédérer toutes ces idées.
Parce qu'il
n'y a
question,
pas une personne que j'admire plus particulièrement pour ses démarches environnementales, si tu veux. Mais c'est comment fédérer ces différentes idées qui émergent dans des agences, etc., pour que ça finisse par devenir un standard de la construction aussi. Un standard, c'est bien, mais il faut qu'il change aussi. Enfin, encore une fois, c'est créer un premier standard, une V1, un prototype de bâtiment qui soit respectueux.
Et comment on fédère alors?
Comment on fédère? Je crois quand même que ça reste... c'est quelque chose qu'on a du mal à fédérer de manière associative en tant qu'architecte, pour être clair. Parce qu'il y a justement cet ego qui est sous-jacent, qui est perpétuel... mais qui est peut-être né justement de la compétition. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'accès à la commande, d'avoir été habitué et biberonné au concours et à la compète quand tu es architecte. Du coup, on a du mal à se fédérer. On a beaucoup, beaucoup de mal à se fédérer. Donc, je crois que se fédérer, ça passera forcément par probablement l'État. Et moi, je suis quelqu'un d'assez étatique dans ma manière de voir les choses. Mais par contre, je trouve qu'ils, pour l'instant, ils ne sont pas suffisamment bien conseillés. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des collèges de conseil qui soient clairement liés à la profession, au métier, on n'est pas souvent interrogé. Voilà, et c'est dommage.
Mais le sujet, est-ce que c'est pas de dire parce que bon, le gros problème qu'on a dans notre société, c'est quand même cette histoire de lobby, et les industriels ont des lobbies très puissants qui font changer beaucoup de choses au niveau de l'État. Est-ce qu'à un moment donné, et je parle des architectes, mais ça pourrait être aussi dans d'autres industries, tu vois. Mais est-ce qu'à un moment, mettre de l'argent là-dedans, que tous les architectes se disent « Ok, bon, on va construire notre propre lobby et on va faire du lobby en permanence auprès des députés, auprès de l'État, quoi. » Parce que c'est quand même là que ça se passe.
Mais nous, on est une goutte d'eau par rapport à ce lobby. Mais quand je dis une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc, je crois presque que ce qui est presque plus important que de fabriquer un lobby, qui est quand même quelque chose... Là, pour le coup, je suis assez pessimiste dans la réalité de cette création de lobby. Mais par contre, tu peux créer un lobby par des effets de levier médiatiques. Et c'est ce qui est déjà en train d'arriver, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des interviews avec des journalistes et qu'on finit par en parler, ça finit par avoir un accès à une tribune et que du coup, les décideurs commencent à lire ça et commencent à se dire... si on continue de faire que du béton, etc., on va finir par être mal vu. Donc, c'est aussi insuffler, c'est Inception, c'est comme le film, c'est mettre la petite graine dans la tête de tout le monde pour qu'au bout d'un moment, ils imaginent faire d'autres choses. Mais c'est en train d'arriver, encore une fois, j'ai l'impression de taper toujours sur la gueule des promoteurs, des entreprises, etc. Encore une fois, je veux dire, j'adore travailler avec ces gens-là. Ils ont en eux la possibilité de changer. Et on le fait déjà pas mal avec eux. Mais c'est il y a encore du chemin à faire, encore beaucoup de chemin, beaucoup de chemin dans l'éducation, dans la médiatisation des nouveaux procédés aussi.
Qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta carrière ?
Qu'est-ce que je ferais différemment dans ma carrière ? Je sais pas. C'est difficile de dire. Si, j'aimerais bien. C'est compliqué parce que tu l'as dit tout à l'heure, on travaille en même temps avec des marques, de luxe ou pas de luxe, mais on travaille avec des marques. Donc je suis dans un système qui est à un moment ou un autre dans une forme de capitalisme. J'aime bien aussi travailler pour ces marques qui ont des valeurs changeantes, hein. Quand je parlais tout à l'heure de Jérôme Dreyfus, pour lequel on fait des sacs, on fait des boutiques et lui-même fait des sacs, lui il a toute une charte de pollution, il n'utilise pas d'acide pour les pousseries, enfin je veux dire il est très 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 orienté. Donc si je devais revoir un peu mon parcours, ce serait peut-être d'avoir été plus sélectif à certains moments de ma carrière sur des commandes qui étaient des mauvaises commandes et que je n'ai pas pu transformer. Même avec toute l'énergie ou la volonté, peut-être qu'il y a certains projets que je ne reprendrai plus. Mais je ne les citerai pas, tu comprends.
Non, j'allais pas te poser la question. À quoi ressemblent tes journées ? Ça, c'est un peu la question rockstar, mais je trouve que c'est intéressant toujours quand même de comprendre comment tu architectures tes semaines et tes mois et tes années, et en tout cas au moins tes journées, pour être productif tout le temps et être en pleine conscience tout le temps et garder du temps pour toi, pour t'aérer l'esprit, etc.
Alors les gens qui me connaissent bien à l'agence savent que je suis rarement en pleine conscience. C'est-à-dire que moi j'ai de temps en temps ce qu'on appelle des fulgurances, c'est-à-dire que oui, là je suis disponible, je suis prêt, je suis réceptif, et du coup ils peuvent venir me voir et on fait des réunions de projet, de conception. Mais quand même la plupart de mon temps je suis assez fermé au sens réflexion, doute, angoisse, etc. Mais donc j'ai des moments de fulgurance et de disponibilité, et d'autres où je suis quand même très 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 refermé sur moi. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pas grave du tout, hein, mais tout le monde sait que j'ai mes moments. Il y a des moments où je suis pas disponible même intellectuellement. Et quand je suis pas disponible intellectuellement, en fait, moi, je bricole beaucoup. Enfin, quand je te dis que je bricole, c'est que j'adore le travail manuel. Je le redisais tout à l'heure. Si j'avais pas été architecte, je t'ai dit tout à l'heure que j'aurais pu être médecin, mais j'aurais tout à fait aussi adoré être ébéniste ou adoré vraiment fabriquer des choses dans lesquelles, à la fin de ta journée, t'es content d'avoir fabriqué cette chose-là. C'est que par moments, je suis aussi très angoissé par la temporalité des projets dont je te parlais tout à l'heure. C'est que quand tu démarres un projet d'architecture, par moments, il peut se livrer 6 ans, 7 ans, 8 ans après. Quand tu livres ton objet ou ton bâtiment, tu peux être complètement trompé. Mais simplement, c'est difficile de revenir en arrière sur un grand processus de fabrication de projet avec autant d'acteurs, de constructeurs, etc. C'est vrai que quand tu travailles sur l'objet du design, c'est pour ça que j'adore bosser là-dessus, sur la matière, la transformation de la matière physique, c'est que tu es un peu toi seul avec la matière. Donc tu embarques pas suffisamment d'acteurs pour que ce soit compliqué. Donc voilà, j'adore bricoler. Je passe ma vie Alors, j'aime pas le terme bricoler parce que je fais des choses, des objets, j'adore ça. Donc voilà, c'est dans mes moments de non-disponibilité. Généralement, je suis dans mon atelier en bas que je te ferai visiter tout à l'heure.
Ouais, j'ai hâte de voir ça. Hein.
Dans lequel j'ai toutes les machines de serrurerie, de menuiserie, de. Voilà, parce que ça nous permet de faire des petits prototypes pour le design, on fait beaucoup de maquettes aussi ici. J'aime beaucoup faire les maquettes. J'ai adoré monter cet atelier de maquettes parce que pour moi, c'est un outil de représentation assez magique. Il est magique parce que je suis une génération qui a fait beaucoup d'images de synthèse. Mais en fait, l'image de synthèse, c'est de l'hyperréalisme, mais c'est du marketing et j'aime pas le marketing. Alors que dans la maquette, il y a ce degré d'interprétation qui est assez magique. Voilà. Les vrais collectionneurs d'architecture, ils collectionnent ou des maquettes ou des croquis. Ils ne collectionnent pas des images de synthèse. Et on comprend pourquoi. On comprend. Voilà.
Quand tu es dans ces moments d'angoisse et de doute, comment tu t'en sors ? C'est quoi ton échappatoire de ces moments-là ?
Après, je suis quand même très encadré aussi. J'ai fait le nécessaire pour que mon entourage professionnel me connaisse bien. Ils me connaissent très, très bien. Ils connaissent parfaitement mes défauts. Ils connaissent parfaitement mes qualités. Ils savent me repêcher quand je suis au fond du trou, quand on vient de perdre un concours, ouais. quand on essuie 2-3 échecs d'affilée. Ils me connaissent vraiment bien. Mmh. Donc, c'est, je crois, aussi la plus grande force. J'ai mes deux associés, Noémie et Delphine, qui me soutiennent depuis maintenant des années et qui me connaissent parfaitement.
Trop bien. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. J'ai encore une ou deux questions pour toi. Une question que j'aime bien poser, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Que tu n'es pas encore interviewé ?
Non, ouais.
Si tu veux, c'est un podcast qui vient plutôt du milieu de la mode. Ouais. Encore une fois, c'est ce que moi je trouve ça intéressant que tu commences à ouvrir. C'est clairement intéressant. Je crois qu'à un moment, faut aussi interviewer pas que les créatifs et peut-être essayer d'aller interviewer les gens qui sont commanditaires, parce que c'est encore eux qui vont faire changer les choses. Je sais pas, tu pourrais interviewer. Il faut que tu interviewes le ministre de la Culture, la nouvelle ministre de la Culture. Tu peux lui demander. Voilà, et tu lui parleras de tous ces sujets. Non, après, il y a plein d'autres personnes qui seraient intéressantes à interviewer. Mais c'est bien de donner place aux très jeunes créateurs aussi. Pas que aux gens.
À la relève, oui, bien sûr.
À la relève. Et la relève, en fait, elle est très puissante. Elle est vraiment puissante. Elle arrive en force parce que. La relève, elle arrive souvent quand il y a des périodes de crise. Voilà. C'est une relève créative et qui, là, je sens, après le Covid, a vraiment besoin de s'exprimer, a vraiment besoin de changer les modèles. Et c'est presque à la nouvelle génération qu'il faut vraiment donner le plus la parole, je pense.
T'as un peu anticipé,
mais... Non pas que je sois un vieux schnock, je suis pas encore complètement... Je sucre pas encore les fraises, mais la jeune génération, elle est vraiment importante.
T'as un peu anticipé ma question, mais pourquoi t'as accepté d'être interviewé dans Entreprendre dans la mode? Alors que tu es architecte, tu es designer
Parce que, en fait, je vais te dire un truc, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la mode, comme je m'intéresse aussi à l'art, que mes premiers clients étaient des gens de la mode. J'ai été baigné là-dedans quand j'étais plus petit. Ma mère était journaliste de mode et mannequin. Et donc, c'est un milieu que j'apprécie. Je trouve qu'il est en train de, pas forcément de bien tourner, mais c'est toujours été un milieu d'expression intéressant. Et je le disais tout à l'heure, les architectes sont toujours jaloux des choses qui sortent vite. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 4 collections par an. C'est quand même des collections qui sortent vite et où on a cette possibilité d'instantanéité, de créativité, que je me refuse entièrement pour l'architecture. Hein, je te le redis, moi, je ne travaille pas avec les mêmes temporalités.
Ouais.
Mais du coup, ça donne toujours beaucoup d'oxygène de pouvoir changer 4 fois par an une collection. Je trouve ça magique. Voilà.
Très bien, merci infiniment. Sauf si on n'a pas parlé de sujet que tu aurais voulu aborder.
Écoute, non, je crois que c'était très bien. Je te remercie parce que c'était intéressant de participer à ton podcast et j'espère que ça va intéresser tes auditeurs.
Que les auditeurs seront contents. Dites-le nous d'ailleurs. Laissez des commentaires, envoyez-nous des MP pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci infiniment, Franklin, et puis à très bientôt.
Salut. Très bientôt, au revoir.
Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.